Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui écoule ses stocks de films avant la réouverture des ciné. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode avant la réouverture des cinémas, on en profite pour publier les critiques qu'on gardait en réserve. C'est donc un retour au format classique, les réactions saisies à chaud à la sortie de la salle, avec les bruits extérieurs aussi, et garanties sans sample. Vous vous doutez bien qu'avec les reports successifs, les dates annoncées lors des enregistrements ne sont plus à jour. Alors, on a classé les films aujourd'hui selon les dates connues de leur publication, de leur disponibilité au moment de la publication. Ainsi aujourd'hui, on vous parlera de The Craft Legacy, The Craft Les Nouvelles Sorcières, sorti le 28 octobre 2020 et disponible maintenant là en VOD. Garçon Chiffon de Nicolas Maury, sorti le 28 octobre et qui ressortira de nouveau en salle à la reprise, à la réouverture des salles le 19 mai. On parlera ensuite de Falling de Viggo Mortensen qui sort le 19 mai à la réouverture des salles. Ensuite, on parlera d'un animé avec un train. Non, ce n'est pas Demon Slayer, c'est Détective Conan The Scarlet Bullet. Pour la première fois, les aventures du détective en culotte courte japonais sur grand écran en France. Sortie prévue le 26 mai 2021. On terminera avec deux films de genre. La Nuée de Juste Philippot, sortie prévue le 16 juin 2021, et Saint Maud de Rose Glass, sortie prévue en juin 2021. La date exacte n'est pas encore précisée. On reçoit pour cette occasion, pour les deux derniers films, on reçoit aussi des invités, oui, parce qu'une émission de claque avec des invités, c'est toujours plus sympa. Ainsi, nous aurons le bonheur de recevoir Judith de la chaîne YouTube Demoiselle d'Horreur pour les films La Nuée et Saint Maud. Ironie du sort, Saint Maud, qui est placé en dernier puisque c'est la date qu'on ne connaît pas encore, et le premier enregistrement qu'on a réalisé avec Judith dans l'émission. Donc il y a un petit effet Ténet, en fait, vous allez voir dans l'ordre des séquences. Et on reçoit aussi Neil dans ce ciné pour La Nuée, aux côtés de Judith aussi également, pour parler de ce film français très attendu. Enfin, on terminera par une annonce en fin d'émission. Bonne écoute. Ça commence maintenant.
What is all this? This is a ceremony to celebrate you. Why would you celebrate me? Because you're on fourth.
Just in time for first period.
This is all just a little crazy.
Half the battle of having powers is believing you do. That's why covens have always been important.
Juste avant le confinement, voilà, on va passer Halloween confiné. Et donc, sinon, vous pouvez braver le confinement, forcer un cinéma et aller forcer la copie qui est peut-être restée coincée dans la machine, qui sait.
Peut-être avec un sort.
Peut-être avec un sort, qui sait. Halloween, sorcière, The Craft, les nouvelles sorcières, film Blumhouse, sur nos écrans, pour Halloween, c'est normal. Enfin, là, du coup, c'est un peu fermé, mais bon. Vous l'avez vu ce matin, votre avis sur cette œuvre magique, j'espère.
Déjà, on te fait la petite fiche technique. Donc, c'est un film qui est réalisé par Zoe Lister-Jones, qui, donc, comme beaucoup de réalisatrices Blumhouse, a eu le droit par Jason Blum de faire un peu ce qu'elle voulait, moyennant petit argent. Il y a des actrices adolescentes qui sont les actrices principales. Donc, le trio de sorcières qui sont jouées par Kylie Spaeny, Gideon Adlon et Lovis Simon. Mais on a également des gens un peu plus connus qui servent à vendre le film. On a Michelle Monaghan et on a David Duchovny.
Oui! Enfin, voilà, je sais pas. Et alors, du coup, je m'adresse à notre sorcière en chef, du coup. Comment sont les nouvelles sorcières, du coup?
Eh ben, alors...
La relève est-elle assurée?
C'est pas forcément un bon film, mais j'ai passé un bon moment. Il est limite nanardesque. Mais quelque part, ça a ses avantages. On s'est bien amusé pendant la séance. L'histoire est, comment dire, avec des très très grosses ficelles. Un quatuor de sorcières. Elles sont quatre.
Oui, c'est vrai. Désolé, oui, c'est vrai qu'elles sont quatre.
Quatuor de sorcières qui, se rendent compte qu'elles ont des pouvoirs et essayent de faire un petit peu ce qu'elles peuvent avec. Donc il y a des trucs un petit peu superficiels, mais aussi un peu la volonté de d'éviter le harcèlement à l'école, etc. Donc c'est des sujets très adolescents, et c'est traité de manière très légère, mais très agréable finalement à regarder, et un petit côté MTV avec un montage très forcé et très désagréable, mais en soi ça passe bien et c'est assez drôle. Et le truc, c'est que le beau-père de la nouvelle arrivante est un espèce de gourou sorcier, je sais pas comment on peut dire, qui écrit des bouquins sur la sainte masculinité et qui trouve quand même que les mouvements féministes, c'est pas possible, et que les hommes souffrent atrocement, et que c'est pas normal.
Est-ce que tu peux baisser le micro, s'il te plaît ? Donc si tu les avais pas entendus, voici les sabots.
Voilà, et donc l'idée, c'est que quand même, ces sorcières, dont une qui s'appelle Lilith, finalement, hein, l'héroïne, hein, c'est fou, il faut dire que le mec s'appelle Adam, ce qui est comme, enfin voilà, on est dans la finesse et dans la... voilà. Et l'idée, c'est un petit peu quand même de faire tomber ce méchant Adam. Bah, après, en soi, bon, c'est des grosses ficelles. C'est filmé comme un épisode de Charmed, les premiers. Donc, c'est un plaisir à regarder.
Il y a Alyssa Milano.
Avec le même budget, effets spéciaux.
Non, il n'y a pas Alyssa Milano. Ah là là. Mais de toute façon, je ne sais pas si tu aimerais la regarder maintenant.
Je l'ai vu dans RuPaul, effectivement. Et bon, il y a eu le temps qui est passé. Mais bon, que voulez-vous.
Bah, après, elle reste toujours très belle et sûrement très talentueuse. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ah si, mais toujours quand même, enfin moi Lilith, bon évidemment gros sabot, etc. Mais en attendant, je suis toujours très contente qu'une fiction populaire comme ça remette en avant le personnage de Lilith, qui a quand même été effacée de la Bible de manière tout à fait éhontée et anormale. Donc que la culture populaire la remette en avant, et ben moi je suis tout à fait pour...
Oui, je te suis carrément. Moi, j'étais très content quand ils ont montré Lilith. Bon, évidemment, j'ai rigolé parce que j'étais quand même la manière dont c'est amené. Mais oui, ça fait super plaisir de retrouver ce genre de mythe. Et voilà, qui du coup ne devrait pas être oublié. Oui, moi, je suis à peu près pareil. En fait, je pense que de toute façon, quand tu vas voir un film de genre, soit justement, tu t'attends à ce que le formalisme soit tellement carré et bien foutu que du coup, ça va t'emporter et tu vas te dire putain, c'est génial, on est face à un immense film qu'on va pouvoir transmettre. Soit, bah, t'es devant un film plutôt de seconde zone, mais c'est pas forcément négatif parce que c'est aussi ce qu'on aime en amateur de ce genre de cinéma-là. Je pense que ceux qui n'aiment pas ça justement vont être encore plus perdus à dire putain mais c'est mauvais. Mais toi tu te dis ouais mais c'est fun quoi. Et tu boudes pas ton plaisir, il y a des effets dégueulasses. T'as quand même un effet de morphing où Michel Monaghan devient David Duchovny. Et c'est dégueulasse, que je veux dire, ça te fait passer le clip de bas des Terminator 2 pour des trucs qui sortiront dans 30 ans. Je veux dire tellement c'est à la masse quoi. Mais c'est fun quoi, tu vois. Et oui, en effet, bon, c'est vrai que moi j'ai bien aimé ce côté adolescent, lycéen, qui se passe avec des tout petits trucs en mode on va juste essayer de régler nos petites situations amoureuses, où on va rendre le bully de l'école gentil. Et elles veulent faire de la sorcellerie, mais bien, elles se plantent un peu parce que y a des petits délires d'ego, mais il n'y a rien de méchant, c'est pas des nanas méchantes qui vont dire on va faire le mal et tout. Et du coup, c'est bien aussi de donner ces figures-là, quoi, tu vois. Quand tu vois la bande-annonce du film de Zemeckis qui arrive, là, elles sont un peu plus méchantes, les sorcières, tu vois. Mais non, ouais, c'est ça, on boude pas son plaisir, même si on a tout à fait conscience qu'on n'est pas devant quelque chose de grandiose.
Bon, un nanar sympathique, donc, avec des bonbons et du pop-corn à la maison, voilà, très bien, pour Halloween.
Ou même en salle, hein, il n'y a pas de raison. Franchement, c'est cool aussi d'aller voir en salle, on n'est pas. Voilà, parce que si on le regarde à la maison, il faut attendre qu'il sorte en VOD dans 3 mois. Évidemment, on ne télécharge pas.
Voilà. Bon, donc du coup, les salles réouvriront pour Mardi Gras. Donc c'est bien, on pourra se déguiser. C'est bien.
Ça va, mon chiffon ?
Ça va, j'arrive demain.
Je descends pour y voir plus clair.
Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chose ?
T'as l'air tout chose.
Pourquoi tu me parles jamais de tes amours ?
Plus je l'aime, plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi.
Ça va aller, mon chiffon.
Ah, ne retiens pas tes ailes, marche.
T'aimes bien quoi, cher mec ?
C'est une vraie question.
Jérémy, qu'est-ce que tu fais ?
J'apprends mon texte pour l'audition.
Ne cherche pas à comprendre.
Merci pour tous mes mères.
Vos sœurs.
Parfois, je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé.
Mais parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie ?
Dernier film français avant le confinement. C'est notre dernier film sur grand écran français avant le confinement. Ouais. Garçon chiffon de Nicolas Maury. Avec Nicolas Maury.
Ah bon ?
De Nicolas Maury, écrit par. Et avec à ses côtés Nathalie Baye, Arnaud Valois, Laure Calamy, Jean-Marc Barre, Isabelle Huppert aussi, pendant quelques secondes.
Est-ce que c'est encore un de ces fameux films qui s'appellerait en réalité Moi, 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 moi ?
Oui.
Ah bon ?
Je crois que c'est le sous-titre, ouais, c'est marqué en dessous. Ouais, ouais. L'histoire d'un comédien, ouais, il y a une histoire, si je vous promets, d'un comédien un peu paumé qui est jaloux maladif et qui est en panique, qui hésite à perdre un rôle et qui est tellement jaloux que son copain le fout dehors et du coup il va chez sa maman pour se remettre d'aplomb et préparer un rôle. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vos impressions sur ce film, cette œuvre très très personnelle pour le coup. Là.
Un peu trop personnel même. Enfin, le problème, c'est que Nicolas Maury est extrêmement sensible. On le voit. On pouvait s'en douter, c'est sûr. Mais à ce point, c'est peut-être un petit peu gênant. En fait, on a l'impression de rentrer dans une intimité qui est beaucoup trop profonde et qui peut plus nous concerner à un moment. Moi, je trouvais ça très gênant, en fait. Malgré le fait que oui, il a beaucoup de choses à dire. Pas forcément. Mais en tout cas, il a envie de raconter sa vie, il a envie de raconter ses problèmes, il a envie de raconter sa vision du monde qui est peut-être un petit peu annexe par rapport à d'autres, c'est vrai. Il a envie de parler justement de ce problème de jalousie, de ce problème aussi des comédiens qui galèrent à trouver des rôles, à s'en sortir, quand en plus ils mêlent leur vie personnelle à tout ça et que c'est compliqué. D'accord, certes, pourquoi faire un film d'une heure 48 dessus, je me le demande. Parce que c'est vrai que ça tourne énormément en rond, ça raconte pas grand-chose au final, malgré tout ce que ça pourrait avoir envie de dire. Et en fait, ouais, je suis vraiment désolé pour Nicolas Maury, mais je l'ai trouvé insupportable là-dedans, quoi. Et après, de toute façon, moi, je m'étais déjà dit ça, tu vois, dans un truc comme 10%, je le trouvais assez brillant, mais je m'étais toujours dit, putain, si Nicolas Maury était sur tous les plans de ce truc, je pense que ça me saoulerait à un moment. Parce qu'il a... Il a des manières, il a des trucs qu'il exagère constamment et qui fait partie de lui, certes, mais ça devient pénible en fait à force. J'ai l'impression d'être constamment sollicité par ce mec qui veut absolument exister à l'écran et qui du coup est tout le temps en train d'hurler, d'être tout le temps dans tous les sens, dans toutes ses émotions et c'est un peu trop quoi.
Éléonore ?
Que rajouter ? C'est pas... Oui, alors oui, effectivement, c'est un film qui ne parle que de ses états d'âme. On comprend que c'est quand même en grande partie semi-autobiographique, on va dire. Il parle de lui, très clairement. En soi, le choix de mise en scène, de pousser les scènes jusqu'à la gênance aurait pu être intéressant, mais c'est rarement assumé jusqu'au bout. C'est pas abouti, c'est dommage. Parce qu'en soi, moi aussi, je l'aime beaucoup dans 10%. C'est un personnage très sympathique à l'écran. On va rajouter qu'il y a quand même deux petits moments un petit peu sympas. Laure Calamy a une scène qui est absolument stupéfiante, mais parce que cette fille est géniale et qu'elle arrive à faire des trucs assez incroyables dans un peu n'importe quel film, et elle est vraiment incroyable. Et on a une scène de 3 secondes avec Isabelle Huppert qui sort du Christine, c'est ça ? C'est magistral, elle ne parle pas, elle est juste là, elle passe, on la voit dans un coin de l'écran, c'est génial.
Son meilleur rôle.
Exactement, son meilleur rôle. Elle a besoin du César pour ça, je pense. Que dire de plus, Nathalie Baye, il y a des moments où elle est assez drôle, quand elle est très cinglante, d'autres où elle est plus en roue libre et c'est pas forcément très intéressant. Oui, non, c'est pas forcément un film que je conseillerais, après, bon... Pourquoi pas ? Je pense qu'il doit y avoir des aficionados du style et peut-être des gens qui s'identifient plus à ce type de personnage, et donc pourquoi pas, mais voilà.
Ouais, ben je vous rejoins, c'est un film décevant parce qu'il y a quelques idées, mais au milieu de narcissisme incroyable, c'est 2 heures pour filmer un nombril, c'est un peu long quoi, au bout d'un moment, et même en rajoutant des chatons et un chien mignon, ça suffit pas. C'est assez lent, en plus l'évolution du personnage, bravo quoi. C'est, au début, c'est un égocentrique, narcissique, compulsif, malade. Enfin, non, jaloux maladif. C'est un narcissique jaloux maladif au début du film. Et à la fin du film, c'est un narcissique jaloux maladif avec un chien.
Et qui décide de se soigner, mais ça n'a pas trop avancé quoi.
Ouais, quoi.
C'est acté, c'est dit qu'il va essayer, quoi. Voilà, après, bon, au final, il s'enferme dans un rôle qui est censé représenter ça déjà, et tout le monde dit que ça va être compliqué.
C'est ça, mais si vous le trouvez, si dans 10% vous le trouvez très chouineur, là, c'est puissance 1000, effectivement. Donc, bon, voilà, écoutez. Après, c'est un film de Parisien qui se plaint, donc.
Qui se plaint puissance 10 000. Mais c'est vrai que Nicolas Maury, j'avais je vais pas dire de l'espoir parce qu'en soi, il fait ce qu'il veut et puis si ça le représente, ça le représente. Mais je l'avais vu dans. Alors je crois que c'était un coup dans le cœur, non, enfin c'était un giallo de Yann Gonzalez. Et donc je l'avais trouvé plutôt bon, j'avais trouvé que c'était pas trop différent. Mais le rôle apportait quelque chose et tu te disais, on peut potentiellement faire quelque chose avec ce gars. Et j'ai pas de doute sur le fait qu'on pourra faire quelque chose par la suite avec lui, mais j'espère qu'il va sortir un petit peu de ça. Moi, ça m'a fait penser un petit peu dans la volonté d'introspection au garçon et Guillaume à table de Guillaume Gallienne. Ce qu'à la différence, Guillaume Gallienne en termes de mise en scène était bien, bien plus intéressant, surtout pour un premier. Et surtout, il proposait pas juste lui et ses délires. Il apportait quelque chose, il racontait des trucs, ça avançait, ça menait quelque part. Là, c'est vrai qu'au final, ça commence avec cette espèce d'association de jaloux anonymes où c'est marrant. En plus, on se dit, ah, c'est cool, ça va peut-être être traité avec cynisme, il part voir sa mère, etc. Ça va quelque part au début. Et puis, une fois que t'as compris qu'en fait, il va rester là jusqu'à ce qu'il aille mieux, qu'il essaye autre chose, tu sens que ça va traîner, quoi. Et c'est chiant, quoi.
Ouais, c'est ça. Bon. Bon, voilà, décevant, garçon chiffon. Ouais, on range dans le tiroir des torchons, du coup.
Garçon chiffon, garçon torchon.
Oh là là. Non, et sinon, j'ai appris que comédien, du coup, ça gagne super bien, comédien de théâtre.
Ouais.
Il a un appart avec une vue, je crois qu'il habite en haut de la Tour Eiffel, le mec.
Lui, il peut s'acheter des spycams aussi.
Pour sa défense, on voit un moment des articles de presse, il est censé avoir un moment. Fait un film qui fonctionne. Parce qu'il ne fait pas que du théâtre.
Oui, il est acteur et comédien. Ouais. Admettons. Bon, bref. Ouais, non, garçon chiffon, s'il vous plaît, réouvrez les cinémas très vite. Je veux pas que ça soit mon dernier film de l'année.
You want to take advantage because you think I've lost my marbles. But I didn't. I want to tell you something. When a guy my age thinks he has to pee, he already did.
Dad, stop.
What?
On est le jeudi soir. On est la veille du moment où on ne pourra plus faire de séance. Après 21h, et pourtant, on se rebelle une dernière fois et on y va. On est invité par le Club Allociné pour aller voir Falling, le nouveau film, enfin le premier film même j'ai envie de dire, de Viggo Mortensen qui passe derrière la caméra pour l'occasion. Alors on est en petit comité, là je suis avec Marwan.
Salut.
Marwan qui n'était pas là la semaine dernière et qui est venu pour se faire pardonner mais qui ne savait même pas qu'on allait voir un film. Quel gentil Marwan.
Bah oui, c'est qu'on fait comme ça ici, hein. On sait jamais, c'est les surprises du jour.
Et celle qui lui a dit si tu viens pas, gare à toi, Éléonore.
Bonsoir.
Voilà, on est trois. On est bien, on est content, il est 23h30, on a encore le droit de sortir, mais on n'a pas le droit de boire. Alors que pourtant on est tous sortis avec une envie quand même d'aller boire un coup pour décompresser. Alors Falling, de quoi ça parle ? Falling, donc, c'est l'histoire de Willis. Willis, donc, que l'on va suivre tout au long de sa vie, à travers des flashbacks, à travers son histoire, et qui, au moment où on nous le présente, est vieux. Vraiment très très vieux, la mémoire commence à être confuse, il commence à plus vraiment pouvoir se débrouiller tout seul, il tient sa ferme avec ses trois chevaux et ça devient fatigant pour un vieil homme. Du coup, son fils, avec qui il n'a pas d'immense rapport, hein, on va pas non plus se mentir, John, joué par Viggo Mortensen donc, va venir le chercher pour l'emmener en Californie avec eux, lui trouver une maison. Et le vieux Willis, joué par Lance Henriksen, on l'a pas cité, va donc se retrouver confronté à tout ce qu'il déteste. Son fils est gay. Il n'aime pas la Californie, c'est l'Amérique profonde qui rencontre l'Amérique progressiste et qui a du mal à accepter les choses, alors que c'est la fin, le dénouement pour lui, et que s'il y a bien un moment où il faut potentiellement renouer les liens avec sa famille, c'est maintenant. Un film du coup sur les liens familiaux, sur les non-dits, sur les histoires de ces hommes qui justement essayent de remémorer toute leur histoire. Un beau film semble-t-il, moi j'ai bien aimé. Qui veut commencer ? Non, Marwan.
Oui, c'est mon prénom. Donc oui, alors Falling est un beau premier film de Viggo Mortensen. C'est quelque chose de sincère, de profondément émouvant, et en même temps qui avait forcément sa place à Deauville ou à Sundance. Et dans l'idée que
manque de peau, il s'est retrouvé à Cannes. Mais, oui, mais bon, c'est vrai qu'en soi, on est d'accord.
Et oui, mais ça n'empêche que c'est un bon film et qui saisit en fait par son honnêteté le rapport père-fils et de façon très polarisante, c'est-à-dire qu'il est toujours dans l'exagération, je trouve, dans ses personnages pour essayer de faire ressortir on va dire des choses fortes, si, je trouve, et ça marche à moitié. C'est pour moi le seul point faible que j'ai trouvé dans le film, c'est cette idée de choisir vraiment des personnages dans des extrémités pas possibles, vraiment dans des extrêmes opposés, et de les voir s'affronter. Et dans tout ça, j'ai trouvé ça intéressant, malgré tout, parce que ça voulait montrer un film. Je trouve que c'est un film qui se veut film d'acteur, c'est-à-dire que on sent que c'est un film pour des interprétations, pour des gens qui vont tout donner, qui vont réussir à, je trouve, partager beaucoup d'émotions. Mais Falling n'est pas que ça. C'est aussi un film qui sait, dans sa forme, proposer quelque chose. Il sait, en gros, comme tu disais bien, c'est des flashbacks. Et c'est des flashbacks qui, je trouve, qui vont dans un rythme assez particulier, confus, qui suit un peu le rythme du grand-père qui, lui, commence à avoir l'Alzheimer. Et c'est dans tout ça qui est intéressant, c'est qu'on suit des changements de temporalité à travers des odeurs, à travers des sons, à travers des images. Et dans tout ça, je trouve que c'est assez beau, en fait. C'est, même dans le piano, je trouve qu'il y a, ça pouvait être pathos, ça pouvait être aussi un peu triste, mais au contraire, je trouve qu'il y a toujours une certaine justesse. Et voilà, donc j'ai trouvé le film vraiment très intéressant, pas extraordinaire, mais je pense que Viggo Mortensen ne fait que commencer, qu'il ne fait que proposer quelque chose. Il a encore besoin d'affûter sa lame, il a encore besoin de faire d'autres films, d'approfondir ce qu'il veut faire, en fait, ce qu'il est. Et c'est un art qui est compliqué d'être réalisateur et en plus d'être scénariste, et je trouve qu'il s'en sort bien pour son premier film. Voilà.
Éléonore ?
Oui, alors on continue notre exploration de la démence sénile. Donc après Relique, nous avons dans un tout autre registre Falling. J'ai bien apprécié le film, c'est une belle première tentative et on sent que Viggo Mortensen y a mis ses tripes et c'est un projet auquel il tient beaucoup et d'ailleurs il nous l'a très bien présenté à la fin de la séance. On a vu Viggo Mortensen, ça c'était sympa.
Oui.
Fais pas ta fangirl là.
Non, je faisais une imitation.
Très drôle. Pour parler du film, c'est un film qui, formellement, il y a de l'idée, mais quelques lourdeurs aussi. Il utilise un petit peu trop le système du flashback par petites touches d'images avec musique de piano larmoyante en fond, et ça m'a un petit peu agacé. Mais outre cela, il y a plein d'humour un petit peu lourdingue qui contraste avec du coup le sujet du film, qui est beaucoup plus triste et terrible, et ça passe très bien. J'ai beaucoup apprécié. Le personnage du père passe quand même les trois quarts du temps du film à péter, ce qui normalement dans plein d'autres films m'aurait beaucoup agacé. Et là en fait ça passe très très bien. Le personnage est relativement bien écrit, il est absolument détestable. Et il y a juste quelques tout petits moments où on arrive à avoir de l'empathie pour lui, mais du coup ça fonctionne vraiment très bien. C'est un film aussi qui a du coup un petit aspect politique, on va dire, parce qu'on a deux Amériques très différentes. L'Amérique profonde, dans une petite ville, voire même un village, on va dire, enfin vraiment une petite ferme qui croit en des valeurs très archaïques, on va dire, et une autre beaucoup plus progressiste avec un couple gay et une façon d'éduquer des enfants très particulière. Donc c'est vraiment un film très intéressant à voir. Bon, je pense qu'il aurait peut-être gagné à avoir peut-être 20 minutes de moins. Ça aurait été suffisant, parce qu'il y a certaines scènes qui sont un peu redondantes. Mais on a un petit caméo, on va dire, de... Bah non, c'est pas un caméo, du coup. Mais une petite apparition de Cronenberg qui est excellente. Vraiment parfaite. Si vous arrivez à le reconnaître.
Alors, on parle bien sûr de Cronenberg, papa. Oui. Pas Brandon, mais ça aurait été plaisant de voir Brandon aussi. On aime la famille Cronenberg au Canada, mais aussi ici. Moi, je vous rejoins tous les deux. On est assez d'accord, je pense, sur ce qu'on a pensé du film, qu'il a beaucoup, beaucoup de qualités, qu'il a quand même quelques faiblesses aussi. Mais au début, la redondance dont tu parles, justement, qui aurait pu retirer quelque chose, et le côté un petit peu lourd, c'est vrai que je l'avais quand même dans le caractère du père, où quand il veut appuyer un état et appuyer une envie de cracher sur quelque chose qu'il n'aime pas, il le fait en boucle. D'un autre côté, c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai qu'en soi, un vieux, en fait, il se raccroche à ce qu'il peut. Il sent qu'il est en train de perdre la boule, ça l'énerve. Il sent qu'il se souvient plus, il s'accroche à sa colère, c'est tout ce qui lui reste, à tout ça. Et du coup, ça me l'a rendu intéressant. Tu parlais du... j'apporte la précision là-dessus, c'est bizarre. On parlait du fait qu'il passe son temps à péter. Mais c'est vrai qu'en soi, moi, ça m'a beaucoup fait penser à mon grand-père. Dans les derniers moments, justement, mon grand-père marchait dans la maison et il lâchait des caisses, quoi. Sauf que c'était jamais contrôlé. Là, c'est pareil. On n'a pas un vieux qui les regarde, qui leur pète à la gueule et qui rit. Il se lève et c'est comme ça, quoi, et ça lâche du vent. Et du coup, il y a ce côté, tu sens que le corps est en train de lâcher au fur et à mesure, mais il a encore une vigueur assez, assez folle. Et le rôle est du coup très compliqué, je trouve, parce qu'il doit garder une certaine vigueur et des moments de violence et des moments justement très lucides et des moments où justement tout commence à se relâcher. Et Lance Henriksen est hallucinant dans ce rôle. Je sais pas par quelle volonté il a pu le caster ou... comment ils en sont venus à vouloir bosser avec lui. Mais j'imagine qu'avec un acteur qui n'aurait pas justement les épaules de tenir un tel rôle, ça aurait eu une toute autre gueule. Et c'est vrai que ce que tu disais, Marwan, c'est que c'est vraiment un film de performance. Moi, je pense aussi à Laura Linney qui joue la sœur, qui n'a qu'une scène, mais c'est une scène où justement elle est totalement dans le contrôle. Elle se dit, c'est sûrement la dernière fois que je vois mon père et je dois ne pas craquer et ne pas lui donner une image négative alors que je ne peux plus blairer tout ce qu'il est en train de me dire. Et on sent ce personnage qui se retient, qui à la fois a envie d'éclater, à la fois n'a pas envie de le faire. Et j'ai trouvé ça assez bouleversant. Et voilà, et le film joue beaucoup là-dessus, avec quelques petites erreurs aussi. Les flashbacks sont intéressants parce qu'ils sont vus par, au final, je pense, les deux personnages.
Je parle pas forcément des flashbacks, ça c'est bien pensé. Non, je parle de quand il y a des moments où le grand-père est un peu dans sa tête, et c'est un peu les moments émotions avec plein d'images, mais sans le son, et juste le son au piano, et c'est un petit peu le cliché d'un personnage qui se souvient de quelque chose. Donc je parlais pas forcément des scènes de flashbacks qui sont bien amenées, parce qu'en plus, il y a plein de moments où on revoit des scènes de flashbacks à différentes époques, et en fonction de ce qu'on a appris tout le long du film, on les voit pas forcément de la même manière, donc c'est assez intéressant.
Oui, non, c'est ça. En fait, moi, c'est pareil. Je trouve que le procédé, des fois, dans la manière dont il est amené, n'est pas forcément glorieux, des fois un peu grossier. Mais par contre, ce qu'il veut démontrer est intéressant. Et surtout que j'ai l'impression, même si on est souvent dans la tête du père, qu'il y a aussi des fois des flashbacks qui sont remémorés par le fils. Et que lui, en fait, essaie de se raccrocher un peu à quelques bons moments qu'il a pu avoir en se disant, il faut quand même essayer de sauver ça, parce que sinon, je le laisse crever dans sa cambrousse. Et le grand-père qui essaie de se rappeler, du coup, est-ce que j'ai des réels bons moments, est-ce que j'en ai pas, quels sont mes regrets, quels sont mes remords, qu'est-ce que j'ai apprécié de ma vie, quoi. Et c'est ce qui est assez touchant aussi, quoi, de voir quelqu'un qui, au final, a une forme de jalousie, de voir son fils qui évolue dans une autre sphère et qui a l'air totalement épanoui, là où lui est juste refermé avec son aigreur, quoi. Et c'est beau pour ça aussi.
Une réplique géniale qu'a la petite fille adoptée du couple gay qui dit « Ah oui, mais je suis perdue, là, il y a trop de papy, trop de mamie et trop de putes.
» c'est vrai que pour un enfant dont les parents essaient régulièrement d'expliquer quand même ce genre de termes, genre quand le grand-père dit « On va couler un bronze », il se dit « Bon, bah, on va lui répéter derrière, comme ça la fera rire et elle va comprendre qu'on peut rigoler de ce genre de mots. » Mais quand ils sont face à des mots un peu plus vulgos, ils sont là en mode « Bon, qu'est-ce qu'on fait, là ?» Falling, un premier film... Pas forcément étonnant parce que je m'attendais à de la qualité de sa part, j'imagine que vous aussi. Mais en tout cas, très encourageant pour la suite. On espère justement qu'il y aura une suite et que Viggo Mortensen va avoir envie de reprendre la caméra pour d'autres projets qui seront, j'imagine, tout aussi touchants. Ça sort le 4 novembre, avec toutes les chances qu'il y a, hein, on espère. On croise les doigts et on vous conseille d'aller le voir à sa sortie en salle. Voilà, voilà. S'il sort.
赤井さん、万一の時が来てしまったみたいだ。了解した。引き合わせてはいけない危険なファミリーが集結するとき、世界を動かすミステリーが幕を開ける。まさか。決戦はリニア。お名を守るのは俺の。劇場版名探偵コナン、ヒーローの弾丸。届け、遥か彼方へ。
Bonjour et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui résout le mystère du cinéma à la sortie des salles.
Bah oui, bien sûr.
On l'essaye.
Oui, oui, j'approuve.
Ok, c'est bon, on le garde. Ah, le scooter à contresens, ça m'avait manqué ça, le scooter à contresens. On est en extérieur, ça y est. Waouh. C'est un enregistrement dehors, c'est le premier de 2021, incroyable.
On y croit.
Ça va réouvrir officiellement. Là, on sort d'une Projo Presse, actuellement. Je suis avec mes deux enquêteurs de choc. Vous les entendez, il y a ça.
Bonjour.
Et Marwan.
En général, les malfrats ont peur de ce rire maléfique, car ils savent qu'ils vont être derrière les barreaux.
Aucun nanar ne leur échappe.
Oh là là, mais qu'il est méchant.
Après, c'est vous qui démasquez les bons films des moins bons. C'est ce que je veux dire. Des malfrats. Aujourd'hui, on est là. Bon, alors pour un film, oui, mais un film un peu spécial, puisque c'est un animé. Même c'est un long métrage adapté d'une série, enfin non, qui suit une série de mangas, une série un poil connue. Voilà.
Attends, je vais le dire. Meitantei Conan.
Détective Conan. The Scarlet Bullet. La belette.
Non.
La belette
qui s'appelle Scarlett. Tu sais, j'ai bugué un moment, j'ai dit, mais à quel moment il y a une belette dans le... J'adore. Vas-y, écoute.
C'est un spin-off avec Scarlet Witch dans WandaVision.
Oh putain, non.
Oh, la solitude.
C'est elle qui se fait arrêter. C'est elle qui se fait arrêter par Détective Conan. Il l'appelle parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il a des propres Conan, il a des super pouvoirs.
Ils ont besoin de quelqu'un d'intelligent.
En vrai, c'est... dans WandaVision, c'est un peu ça. Ils sont tous un peu cocons, hein, quand même, hein. Faut le dire.
Bon, ben là, du coup, on va parler de WandaVision. Tant pis pourquoi. Non, Détective Conan, vous le connaissez.
C'est WandaVision.
C'est le grand retour du détective en culotte courte, du Sherlock Holmes des cours d'école, si on veut. C'est le mini Sherlock est de retour. Alors, cette fois-ci, Scarlett Bullet, ça renvoie à un train à grande vitesse, parce que l'intrigue... Alors, c'est une intrigue très alambiquée. En gros, va y avoir l'équivalent des Jeux Olympiques, les Jeux mondiaux qui vont se... Oui.
JSM.
Ils vont faire de la GSM, donc. Non, il va y avoir les jeux. Donc, il y a un équivalent des jeux sportifs mondiaux, un équivalent des Jeux Olympiques, hein. Bizarrement, 2020-2021, tiens donc, qui s'organise au Japon. Ça alors, surprise. Et donc, c'est l'occasion, en même temps, d'inaugurer un train à grande vitesse par suspension magnétique qui va à 1000 km/h et qu'on appelle The Scarlet Bullet, la balle du Japon, The Japan Bullet, même. Un bijou technologique, mais en parallèle, il semblerait que des dignitaires, des sponsors, des VIP en lien avec le projet soient enlevés les uns après les autres. C'est un mystère. Mais heureusement, Détective Conan est là pour résoudre le mystère. Pour save the day. Donc ce personnage Détective Conan, alors c'est le parfait cadeau pour les fans de la série. Mais alors, est-ce que c'est... Alors, pour les fans, c'est super. Enfin, c'est vraiment une très très belle surprise. C'est la première fois en plus qu'on voit le détective sur grand écran en France. C'est pas le premier film, au Japon ils ont l'habitude, mais chez nous c'est le premier sur grand écran, donc très très beau cadeau. Est-ce que tout le monde peut se joindre à la fête? Ou bien est-ce réservé aux ceux qui ont lu les 100 tomes du manga, les 1000 chapitres?
Ou vu les 900 épisodes?
hein, chers amis?
On y voit quelque chose qui a marqué le monde le monde japonais, le monde du manga japonais, et c'est quelque chose qui est devenu ancré dans la culture jusqu'à réellement accompagner les événements nationaux japonais, dans le sens où, par exemple, on a le droit, je crois, je sais plus si c'est un film ou si c'est un épisode spécial sur la Coupe du Monde qui a eu lieu au Japon, dans un pays, je ne sais plus lequel, et donc voilà, donc on a quand même ce côté... Enfin, fierté nationale, où on avait des statues, des trucs exprès de Conan qui devaient représenter une part de cette culture-là. Et là, cette fois-ci, ça ne manque pas. On a cette représentation des Jeux Olympiques. On sent que c'est une marque déposée, les Jeux Olympiques. Donc, ils ont dû se débrouiller avec ça. Et, mais voilà, donc c'était cette idée de continuer à divertir les fans. J'ai pour le coup réellement passé un bon moment devant ce film, dans le sens où c'est quelque chose que je suis depuis que je suis gamin, et vraiment vraiment depuis l'école primaire. Donc il y a un côté très très honnête, vraiment une vraie nostalgie qui s'est vraiment déclarée, donc dans le sens où je pourrais pas être à 100% objectif, je pourrais juste souligner des fois les gros traits, le manque de finesse dans l'écriture de l'enquête. Il y a ce côté, encore une fois, où on sent qu'il y a moins de rigueur qu'a habituellement le mangaka Gosho Aoyama. Il y a cette idée de quand même de suivre toujours des pistes logiques. Donc à chaque fois, c'est vraiment des trucs qui sont vrais, mais qui sont parsemés de résolutions ou de situations totalement folles. Et pour le coup, mes comparses pourront réagir avec moi sur le fait que la chose qui va sûrement déranger les gens, c'est particulièrement les personnages qui n'en finissent pas et qui finalement viennent de toute la panoplie de Conan, donc de fin années 90 à maintenant. Donc il y a ce côté où vraiment aujourd'hui il faut réussir à suivre, même s'il y a un léger résumé, et voilà.
Il y a ça.
Ben, c'est un petit peu pareil que Marwen. Il y a vraiment la grosse fibre nostalgique. Conan, c'est un doudou pour nous un petit peu, parce que voilà, on a grandi avec. C'est très entertaining, je sais pas.
Divertissement.
Divertissant, ouais. C'est très divertissant parce que voilà, on essaye nous aussi de résoudre l'affaire au fur et à mesure avec le détective. C'est très dense en fait parce que on nous présente des personnages qu'on connaît pas, mais ils sont présentés mais à la rage, quoi, je veux dire, ils sont présentés dans le générique. Ça va très très vite et comme on comprend pas en fait les connexions qu'ils ont avec Conan et du coup on comprend pas vraiment les interactions. À des moments c'est des alliés, à des moments c'est des antagonistes, donc on sait pas vraiment où se placer. C'est ce qui fait que ça dessert un petit peu le film, et aussi l'intrigue est quand même est aussi très dense en fait, parce que on suit plusieurs angles d'attaque et tout ça se mélange un petit peu dans c'est un petit peu un gros foutoir qui à la fois a l'air cohérent, mais à la fois il faut avoir le temps de l'assimiler, sauf qu'on n'a pas le temps de l'assimiler parce qu'on passe d'une scène à l'autre, on passe d'un raisonnement à l'autre et en fait finalement ce qui en ressort au final, c'est qu'on a bien aimé parce que c'est détective Conan et que ça nous parle, mais qu'en même temps ben c'est pas le meilleur des films, quoi, de détective Conan, c'est pas la meilleure histoire en tout cas.
Oui, je trouve que ça allait très très vite. Si vous avez un train de retard, vous aurez du mal à le rattraper parce qu'il va à 1000 à l'heure, quoi. C'est vraiment...
C'est littéralement ça, ouais, c'est littéralement ça.
Par exemple, oui, ben, pour le coup, Thomas était vraiment à chaque fois dans la surprise, dans la compréhension, dans la volonté de chercher à saisir tout ce qui pouvait se passer. C'est ce principe-là où il y a tellement d'informations, où il y a tellement de choses qui se passent que... C'est assez compliqué finalement de saisir tous les tenants et aboutissants, mais il y a ce côté où on ne s'ennuie pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui ont quand même une utilité.
Alors je dis pas que c'est incompréhensible, je dis que juste que c'est pas fait pour débarquer avec ce film dans la série. Faut pas commencer Détective Conan par ce film, absolument pas. Disons que comme il arrive au cinéma et que ça pourrait être une porte d'entrée pour un public, c'est pas vraiment fait pour. Alors ils sont gentils, voilà, il y a une espèce de générique de on dirait c'est le générique de l'anime, quoi, c'est le générique de la série qui est balancé comme ça avec un résumé très 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 bref des principaux arcs narratifs. Donc il y a des persos, je sais pas s'ils sont amis ou ennemis, à un moment ils se mettent sur le nez puis ensuite ils collaborent indirectement et puis ils se connaissent. Enfin, c'est évidemment, ce sont des intrigues, évidemment, sur le nombre d'épisodes de Tom, et non, je peux pas, et c'est très profond comme intrigue, je me doute bien, mais du coup, avoir ça résumé très très vite, waouh ! Et du coup, on prend pas de plaisir parce que ça va tellement vite. Et puis, des fois, il y a quelques incohérences dans le scénar ou quelques trucs, peut-être pas incohérents, mais tellement tirés par les cheveux. C'est tellement extrême, mais en même temps, c'est ça aussi qu'on aime dans les animes. Et c'est ça, c'est qu'il y a des scénarios, ça va tirer le plus loin possible. Hein, et au bout de 100 tomes, au bout de 1000 épisodes, au bout de 1000 chapitres, il faut... Faut choper des idées, quoi. Donc oui, il y a une histoire de sniper et de train qui va à 1000 km/h, donc je n'en dis pas plus, mais comment est-ce que tout ça se goupille, qui est intéressant. Mais pareil, dès qu'on tilte sur un détail, parce que ça va très profond sur certains détails techniques, ça en oublie d'autres.
Ça suit ce principe logique, mais sans savoir si l'application est possible. Donc en gros, ça peut sembler logique dans le sens où, dans leur explication, mais en fait, c'est tout simplement de la foudre aux yeux, et c'est ça le principe en général de ce genre de choses.
Alors après, on est quand même dans un postulat de base où le héros est un gars qui a été rajeuni par un poison,
oui, voilà.
et qu'il a maintenant 7 ans depuis 30 ans, donc
c'est
bon.
C'est de ouf, donc oui, franchement, c'est pas...
Oui, bien sûr, après, vas-y.
Non, c'est bon.
Non, t'as ce principe aussi. Ouais, c'est un principe fantastique. T'as un détail qui va faire que. Enfin, je sais pas, où tout va être différent. Après, voilà, mais après, t'as toujours quand même dans les enquêtes cette idée de logique qui est importante. C'est un vrai théoricien du genre, Gosho Aoyama, donc il y a quand même une importance qui est là. Et ce qui est important aussi, c'est que en général, les films d'animation existent, t'en as eu, je crois, une quinzaine, un truc comme ça, t'en as eu beaucoup.
Il y a plus d'une vingtaine déjà.
Voilà, plus d'une vingtaine pour Conan, t'en as eu plein. Et en général, on sait très bien que la qualité de ces films ne sont pas très importants, dans le sens où quand par exemple, t'as
y a souvent dans les délires de promotion, t'as cette idée aussi de, par exemple, quand t'as le mangaka qui s'implique dans le film, ça va être vraiment marqué mais partout parce que ça veut dire que ça a été écrit par un autre scénariste, mais c'est vraiment écrit par le créateur, là, ce principe là et c'est plus vrai, un petit divertissement qui va plaire aux aficionados qui veulent avoir leur petit manga le temps d'un film quoi, et c'est ce principe là.
D'ailleurs, tu parles de la qualité du film et c'est vrai que pareil, moi je me suis posé la question aussi sur la qualité du film. Je me suis posé un moment la question, si est-ce que ce film-là était destiné au grand écran. Bon, je pense que oui, mais... Mais au Japon, ben oui, mais parce que vous savez, il y a la distinction, ben comme chez nous, hein, mais eux, ça existe depuis tellement longtemps, la distinction série télé, OAV et film, film écran, et il y avait des passages avec des proportions dans le dessin des personnages qui faisaient tiquer, et je me suis dit, mince, est-ce qu'ils ont laissé passer ça pour le grand écran? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Bah, je pense qu'encore une fois que Conan, c'est encore une fois une institution, ce principe de savoir qu'il y a son public là-bas. Et là, la question que je pourrais me poser, c'est pourquoi commencer maintenant à sortir un film Conan, quoi, dans le sens où en France, dans le sens où le distributeur, ce serait intéressant de voir quel est leur angle. Est-ce qu'ils suivent cet angle de sortie cinéma de films d'animé, parce qu'en gros, t'en as d'autres qui ont marché. Est-ce qu'ils pensent trouver un public cible ici? C'est ça les questions que je me pose, parce qu'encore une fois, on a parlé même tout à l'heure de films aux allures de blockbuster, dans le sens où t'as pas mal d'explosions, t'as pas mal d'histoires qui vont à 100 à l'heure. T'as ce principe, ouais, de films qui ne comptent plus ses explosions et tout ça. Dans ce principe-là, il faut savoir que ça ressemble à beaucoup d'autres films. Donc c'est à ce côté-là où ça s'inscrit davantage dans le temps que par rapport aux Jeux Olympiques que pour son histoire en réalité.
Mais surtout qu'on aurait pu, par exemple, avoir un film d'une heure 30, voire d'une heure 15, alors qu'on se retrouve avec quand même un film de 2 heures. Et je pense que ça dessert un petit peu l'intrigue, parce que, en fait, on se retrouve avec des situations à résoudre et qui sont résolues au fur et à mesure, alors que Détective Conan, en vrai, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est des événements qui s'accumulent. Et puis, à la fin, on a la grande révélation, la grande résolution. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça casse un petit peu le rythme, justement.
C'est un peu ça. Moi, Détective Conan, de ce que j'en sais, alors j'ai pas tout lu, je connais le grand principe, mais pour moi c'était du whodunit, c'était Hercule Poirot, c'était Sherlock Holmes, c'était une enquête, et puis à la fin tout le monde se réunit dans la pièce et il fait ah, c'est lui le tueur.
C'est quasiment tout le temps ça, quoi. Mais bon, même
c'est quand même pas mal varié.
Non, c'est varié. Mais je veux dire que la forme varie, mais le fond même, il reste relativement similaire. Mais le truc dans ce film là, c'est que pour combler les 2 heures, en fait, ils ont rajouté des espèces de sous-intrigues, mais qui sont liées à l'intrigue principale, évidemment. Mais du coup, qui font que ça fait un peu brouillon, ça fait un petit peu beaucoup, en fait, à assimiler. Et du coup, ça enlève un petit peu de la saveur de ce qui fait Détective Conan, quoi.
Après, la question, c'est savoir si, pour nous, ça, c'est tout ce que tu as dit, ou bien si c'est un fan service pour ceux qui connaissent. Tu vois, il y a ce principe-là. Donc encore une fois, c'est savoir, à qui c'est proposé en réalité. Donc voilà. Ouais, mais ça reste quand même encore une fois quelque chose de divertissant qui rappelle la nostalgie, mais qui a ses défauts de films qui en réalité devraient sortir comme un OAV, quoi. À me regarder. Ouais.
Non, mais c'est vraiment le. Non, alors par contre, je pense que c'est vraiment le beau cadeau pour les fans de Conan. C'est vraiment un régal. Si vous adorez Conan et que vous suivez, que vous êtes à jour, faut être à jour. Si vous êtes à jour de Conan, si vous êtes un fan de Conan, voilà, les fans de Conan, vous allez vous régaler. Conan, Détective Conan, The Scarlet Bullet, sortie prévue le 21 avril 2021, si les salles sont ouvertes. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que ça ouvre.
Je crois que c'est vrai. Et puis, enfin, c'est beau parce que qui aurait dit qu'on verrait ce film-là, hein, puis avec tout ce qui se passe, mais genre au cinéma, quoi. Enfin, un Conan au cinéma, pour moi, c'était pas prévu, donc t'as ce côté très agréable.
Il y a peut-être aussi le côté, justement, le Covid, le fait qu'il y ait pas mal de films qui soient frileux pour une sortie en salle et que ça ouvre la porte à Eurozoom qui distribue ce film-là, mais qui avait aussi distribué en 2020 Ip Man 4. alors que les précédents étaient sortis directement en VOD, qui avait ressorti Akira en salle, qui saisit l'opportunité parce que justement les gros n'osent pas sortir des gros films, et du coup ça laisse de la place aux petits qui peuvent tenter des coups.
Je pense que c'est une très grosse raison, voire la raison principale, hein, parce qu'on sait que Détective Conan, s'il était sorti dans des circonstances normales, ça n'aurait pas, à part les fans justement, ça n'aurait pas touché un large public. Hein.
On verra. Là, c'est une projo presse, là, les enfants. On ne sait pas quelle est la réaction. Voilà, on se calme. Bien.
On rajoutera un petit bonus en fonction des sorties.
Si ça a marché. Voilà, si ça a marché, on rajoutera quelque chose. Allez, on va passer à la suite de l'émission. Voilà, je ne sais pas ce qui est prévu. Peut-être que... Enfin, je dis la suite de l'émission, mais si ça se trouve, ça sera peut-être en one-shot balancé comme ça. Je n'en sais rien. Je ne sais pas.
Je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour les 40 kilos.
T'as vendu combien ?
Parce que je voulais.
Qu'est-ce qu'il y a ? Un problème ?
Moi, je peux pas travailler avec des quantités comme ça. C'est crazy business.
Bientôt, il y aura plus à bouffer. Vous êtes trop cons pour vous en apercevoir. Ça va ?
Quoi ?
T'as pas l'air bien, là.
On prend un peu d'avance avec un film fantastique, un film de genre, si fantastique que ça, peut-être pas, quoique, oui, non, c'est vrai, si, si, vrai, c'est vrai, c'est du fantastique, à un moment, il y a un agriculteur qui prête de l'argent, ça n'arrive pas dans la vraie vie.
C'est pas très gentil sur la situation des agriculteurs en France, mais vu que le film est social, on va pouvoir en parler.
C'est vrai, ça, c'est fantastique. La nuée de, alors, est-ce qu'on dit juste ou just, Philippot?
Je pense qu'on lui dit juste.
Première question. Alors.
Voilà, mais il n'y a pas le. Donc voilà, juste, mais sans le Philippot. Avec Julianne Brahim, Sofiane Kames. L'histoire de Virginie qui monte un élevage de sauterelles pour faire de la farine, parce que c'est l'avenir, hein. c'est super protéiné, c'est vachement bien. Et ça ne marche pas si bien que ça. Ça ne marche pas des masses. Elle est à deux doigts de tout lâcher parce que bon, elle peut plus souvenir ses besoins, à ceux de ses enfants. Il y a le copain Karim de l'exploitation à côté qui lui prête un peu d'argent pour subsister, mais bon, ça suffit pas. Et puis, par hasard, elle se fait mordre par les sauterelles et elle s'aperçoit qu'en leur filant du sang, ça bourdonne. En leur filant du sang, elles deviennent beaucoup plus productives. Et ça devient des méga sauterelles et on peut faire plein de kilos de farine et on peut en faire beaucoup. Bon, le problème, c'est qu'elles y prennent goût, elles deviennent plus agressives. Et donc, il va falloir gérer la nuée. D'où le titre du film, peut-être. Alors, ça sonne comme un film fantastique, un film action avec des sauterelles qui sautent partout et qui vont bouffer des gens. On est plus sur du côté social. Et avec moi, j'ai mon élevage de critiques. Thierry.
Oh.
Éléonore.
Hey.
Alors je ne compare pas à des animaux en particulier parce qu'après on va dire c'est du spécisme tout ça, donc on va éviter. Une spécialiste des films de genre, vous la connaissez, on l'a déjà reçue dans l'émission, Judith, demoiselle d'horreur.
Bonsoir.
Et avec nous un des nombreux journalistes dont c'est un ciné, Neil.
Il m'en reste deux et c'est bon.
Salut à tous.
On aura vu toute la rédac, c'est bon.
En fait, c'est ça, ouais, vu que j'arrive pas à caler le nom du webzine tout le temps, tu vois, je fais du sponsoring en fait.
Ah ouais, c'est ça, ouais, voilà. Ouais. Ça s'est pas vu, du tout. Ça s'est pas vu du tout. Donc, on sort de la Projo Presse de la Nuée, qui sort le 4 novembre sur les écrans français, si les salles sont encore ouvertes.
Sinon, l'année prochaine.
On est la veille des nouvelles mesures, hein, je veux dire, faut le dire.
Si vous sortirez en VOD.
Ouais, super, youpi. Donc du coup, est-ce qu'il faut se précipiter en nuée, justement, en masse, dans les salles de ciné, dès qu'on peut, pour aller le voir, ce film ?
De toute manière, il faut de toute manière se précipiter dans les salles, s'il vous plaît. Allez voir les films en salle, oui, de toute manière. Donc on ne vous dira pas le contraire.
Donc toi, Juliette, ton avis en sortant de la nuée?
Bah, alors moi, ce qui m'a surprise pendant le film, alors j'ai essayé d'en savoir le moins possible sur le film avant de le voir, parce que j'aime faire ça. Ce que j'ai trouvé très intéressant comme proposition, c'est le mélange, et je pense qu'on va en parler pas mal, mais de naturalisme très à la française, avec voilà, les thèmes sociaux de la situation des agriculteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas mal au cinéma en ce moment, mais abordé avec, via un angle horrifique, en fait. Ça, j'ai trouvé que c'était une proposition très forte et très bienvenue dans le cinéma français.
C'est bien résumé.
Ce qui était assez intéressant, c'est vrai qu'on se posait, je me suis posé la question d'où allait le film. Alors, avec quelques renseignements par-ci, par-là, donc je m'attendais plus ou moins à quoi m'attendre, mais enfin, peut-être pas à ce point, et peut-être pas assez à ce point. Du coup, la question c'était, est-ce que ça va être quelque chose qui va ressembler aux oiseaux? Je me suis vraiment posé la question du quand on va commencer à développer les insectes, comment ça va être, ou est-ce que ça va être, et c'est plutôt vers ça qu'on se dirige, les bouchers verts. comment est-ce qu'on s'en sort en faisant des trucs un peu alternatifs? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ait choisi des sauterelles, en fait, pour faire ça, puisqu'il y a un côté... le truc qui va trop loin, et qui du coup se retourne contre son créateur, il y a un petit côté, à te prendre pour Dieu, tu te prends une plaie. Voilà, évidemment, c'est très imagé, mais il y a ce côté-là aussi, un petit peu, c'est bien de jouer avec ça, mais si tu le contrôles pas, c'est pas bien. Donc voilà, donc il y a le côté horrifique qui est intéressant, mais c'est vrai que de toute façon, c'est un truc qui cache énormément tout le drame humain qu'il y a derrière, et qui est une espèce de descente progressive, forcément dans une forme extrême de folie, mais dans une forme de perte de repère totale pour une nana qui essaye de s'en sortir et qui sait plus quoi faire. Toutes les solutions qu'elle prend, elle se rend compte que que ça va la faire sombrer dans quelque chose d'assez inhumain. Mais il faut bien qu'elle survive, elle a une famille à nourrir, quoi. Donc c'est très complexe, j'imagine, de se poser ce genre de questions. Donc ça te met face à face aux agriculteurs qui en chient pas mal. Ouais.
Éléonore ?
Ouais, non, exactement. C'est vraiment une histoire d'aliénation. Et les sauterelles sont utilisées dans ce cas-là, dans ce système-là. On va plus loin dans les métaphores, c'est un peu l'idée que puisqu'on est dépendant d'un système capitaliste et que du coup elle a besoin d'argent, elle est obligée d'aller dans ces systèmes effroyables, donc qui sont traités soit par le body horror, soit par des limites de l'humour noir, des moments qui peuvent être un peu drôle, on va dire, et c'est particulièrement bien interprété. Donc moi, je veux un petit peu revenir sur les acteurs. J'ai trouvé l'actrice vraiment très bonne. Elle a un petit côté Charlotte Gainsbourg, ouais, totalement, ouais. Dans la voix et dans le. Elle est toute fluette et elle est très posée. Mais on sent, alors elle donne cet air très calme, mais on sent que derrière ça travaille beaucoup et que c'est bien compliqué dans sa tête et qu'elle est dans un espèce de labyrinthe infernal lié à cette aliénation, et elle fait un petit peu ce qu'elle peut. Mais j'aimerais aussi un petit peu revenir sur l'adolescente, et c'est assez rare, je trouve, de voir des adolescentes qui jouent aussi bien.
Marie Narbonne.
Voilà, tout à fait. Les dialogues sont pas si mal écrits, ce qui est assez rare dans les films qui sont en général un peu sociaux, où c'est un peu téléphoné parfois et pas très agréable. Là, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu, ce qui avait vraiment ce qui était dit, le sous-texte derrière, les petites phrases. Je me suis parfois entendu, des dialogues que j'ai pu avoir avec ma mère, parfois c'était vraiment très, très véridique, et je trouve que ça, c'est assez agréable. Et elle est vraiment géniale. Enfin, elle arrive à jouer la double émotion vraiment très bien, cette actrice. Donc j'espère qu'on la verra plus. Alors je pense que l'un des défauts du film, c'est qu'il s'éparpille partout, et en fait il sait pas très bien comment servir des sauterelles totalement. Ça part un petit peu à la fois, il y a du body horror effectivement, il y a très clairement ça fait penser au plat d'Égypte, donc il y a un petit côté mystique, mais qui est à peine travaillé, à peine montré dans le film. Et dans tout ça, il y a aussi le côté métaphorique, donc du travail et de l'obligation de travail dans le système qui est aliénant.
Neil ?
Non, mais c'est vrai que je voulais rebondir sur ce qu'a dit Eleonore. C'est vrai que si on peut faire un mix, c'est un petit peu Au nom de la Terre avec les 10 plaies d'Égypte. C'est ça qui est très fort aussi, c'est que c'est un cinéma français qui s'attache à la fois à ce qu'il sait faire dans le côté sociétal aujourd'hui avec des films où il travaille vraiment ce qui se passe en France, dans la vie, la dureté de la vie paysanne, et qui marie avec des films de genre, donc on voit de plus en plus éclore en France avec des jeunes auteurs comme Julia Ducournau. Je crois que prochainement il y a un film qui s'appelle Ogre aussi, un premier film qui va s'apparenter à une disparition d'enfants dans la nature. Et voilà, c'est un cinéma français qui ose marier les choses et qui le fait vraiment plutôt bien. Et c'est des vraies propositions de cinéma qu'il faut soutenir et pour qu'on en voit plus. C'est vrai qu'il faut pas que les gens s'attendent à un vrai film qui fasse peur ou qui soit vraiment trash. Donc il faut vraiment mettre en avant ce côté sociétal. Mais c'est une proposition forte, et je pense qu'il y a des scènes qui sont quand même assez marquantes.
Oui, c'est vrai, mais c'est ça, c'est surtout du sociétal. C'est vrai qu'on a la promo avec les grillons qu'on voit, enfin, les insectes à manger et tout. Bon, voilà, on est plus sur le côté social. Alors là, du coup, c'est la partie prédominante du film. Et alors, bon, elle est plutôt bien menée, mais moi, c'est pas trop ma cam. J'avoue que, bon, une fois qu'on a compris qu'être éleveur, c'est dur, ben ça y est, on l'a dit, quoi. Donc j'attendais un peu que le film fantastique commence. Le film fantastique, enfin, le film de monstres. Il est un peu décevant. Alors, j'aime bien l'image de ces, justement, de ces sauterelles. Alors, les plédigies, vous l'avez dit, mais aussi, elles vont se nourrir du sang de l'éleveur, en fait, de l'éleveuse, en l'occurrence, qui va y laisser son sang, sa santé. Et donc, c'est aussi l'image de ces éleveurs qui se crèvent la santé, qui donnent tout ce qu'ils ont, c'est leur sang, quoi, l'exploitation, pour être rentable, pour rentrer dans les formats. Et oui, cette image est super. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et je trouve que ce nuage d'insectes qu'on voit les quelques apparitions, une fois qu'il arrive, une fois qu'il est libéré, c'est un peu un pétard mouillé, je trouve. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir vraiment un truc. Et, alors, je me doute bien qu'il y a des considérations de budget, il y a beaucoup de trucs qui doivent rentrer en compte, je me doute bien. Mais c'est vrai qu'un truc s'appelle La Nuée, je m'attends à avoir justement ce film de nuée, ce nuage d'insectes qui va faire des ravages et autres. Et je ne l'ai pas. Enfin, je l'ai, mais je suis déçu de ce qu'on en a. Après, oui, et donc le social, comme on insiste beaucoup dessus, j'ai l'impression d'avoir deux films, en fait. Ce qui m'ennuie, en fait, c'est que j'ai l'impression d'avoir deux films. C'est-à-dire que j'ai ce film social, j'ai ce film de monstres, de nuées d'insectes, et j'ai l'impression que les deux séquences ne font pas partie du même film, alors que normalement, oui, mais ça ne colle pas, je n'ai pas la liaison entre les deux, quoi.
Je pense que c'est clairement une question de comment s'est placée la communication autour du film. Alors, je sais pas exactement ce qu'il en était, parce que moi, tout ce que j'avais entendu sur le film, c'était par le bouche à oreille des gens qui l'avaient vu dans les projets presse antérieurs à la nôtre. Du coup, je sais pas exactement comment ils ont communiqué dessus, mais en effet, s'ils ont communiqué sur le côté, ils nous ont quand même offert des insectes à manger, sur le côté justement nuée, sur le côté, oui, ça va être un film de genre pur et dur. Peut-être que là, il y a un défaut. D'un autre côté, c'est aussi difficile de pouvoir parler de ce genre de sujet si on ne ramène pas les gens avec une carotte. Alors à ce moment-là, oui, peut-être qu'il faudrait trouver un compromis qui fait que cette nuée-là est plus développée. Je suis assez d'accord pour le côté pétard mouillé, surtout que ça intervient dans les scènes finales où on s'attend au moins à un climax assez intéressant qui, oui, meurt un peu dans l'œuf. Après, il y a un espèce d'effet liberté de nature qui reprend ses droits qui fait que c'est assez logique aussi que la scène à laquelle on s'attend n'intervienne pas. Évidemment, je ne vais pas en dire trop non plus. Mais ce que tu disais est assez intéressant aussi sur les éleveurs qui donnent leur sang. Tu as le viticulteur qui dit justement à un moment une analogie quand il fait goûter son vin et qui dit ça, c'est tout ce qu'on donne, c'est absolument toute notre âme. Et ensuite, les gens acceptent ou n'acceptent pas. Et c'est vrai que, il y a peut-être un petit tacle aux yeux du public en leur disant consommer local. N'oubliez pas de soutenir un peu les gens qui font du boulot. Et c'est compliqué. Le commerce de proximité, on ne le dit jamais assez. Bon, c'est pas. Voilà, le film le dit peut-être pas non plus frontalement, mais c'est un peu ce qu'il veut dire, je pense, surtout, et qui se dit, regardez ce que les gens sont forcés de faire, en fait. On pense aussi aux agriculteurs qui ont été obligés de foutre des saloperies dans leurs trucs pour pouvoir produire plus, pour pouvoir faire des trucs, et que maintenant, on a une terre qui est foutue. Parce que voilà, c'est pas dit frontalement, mais c'est un sujet sous-jacent du film, et c'est ça qui est intéressant, et peut-être au déprofit, justement, du film d'horreur génial que ça aurait potentiellement pu être aussi.
Moi je trouve que je trouve que le film a un équilibre propre qui est plutôt bien maîtrisé, mais effectivement le problème c'est la manière dont on va le recevoir, parce que quelqu'un qui s'attend à voir un film social sur la vie des agriculteurs va trouver ça étrange et choquant, et quelqu'un qui s'attend à voir un film d'horreur va être déstabilisé par le côté plus social, quoi. En soi, je trouve pas que l'équilibre du film il soit raté, mais le problème c'est qu'on est on est trop formaté à attendre quelque chose d'autre, quoi. Une case dans laquelle il rentre pas, en fait.
Ouais. Voilà. Ça, donc c'est un film atypique. Donc il faut aimer les films sociaux et les films de genre.
C'est une proposition courageuse, en tout cas.
C'est très clairement une petite bizarrerie qu'il faut aller voir. Et moi, sur le coup, il m'a aussi un petit peu fait penser, du coup, pour parler plus du personnage de la mère, au film Little Joe. Je sais pas si on a vu sur le côté les gros plans sur les sauterelles, donc on les personnifie quand même beaucoup, cette mère qui est complètement bouffée par son travail et qui laisse un peu de côté ses enfants, et il y avait aussi, il y a quand même quelques plans qui sont bien travaillés avec des couleurs très prédominantes. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus dans le film, alors que Little Joe il y a que ça et c'est un plaisir à regarder, enfin moi j'adore. C'est trop bien. Et donc voilà, si vous avez aimé Little Joe, ça peut être le type de film qui peut vous plaire.
Manger par son travail, c'est le terme. Oui.
Je vais rajouter quelque chose, voilà, j'invite les gens à regarder le court-métrage de Juste Philippot qui s'appelle Acide, qui a été primé à Sundance, je crois. Et c'est, en fait, on remarque dedans qu'il s'attachait déjà à tout ce qui était écologie, la nature qui reprend ses droits. C'était un nuage qui recrachait de l'acide. Et il y avait toujours cette histoire de famille au milieu qui essaie de s'en sortir parmi cette société, voilà, qui lutte pour combattre cette nature. Donc voilà, c'était un peu les prémices de son cinéma, et je pense que oui, c'est un auteur qui va beaucoup tourner autour de l'écologie, le rapport à la nature et les thèmes sociétaux. Donc voilà, je pense qu'à l'avenir aussi il continuera dans cette veine là
alors juste un bémol, à un moment Eleonore dit qu'il y avait de l'humour. J'en ai pas vu du tout dans le film. Alors si, il y a un moment la salle rit, mais je crois pas que ça soit volontaire en fait.
Crève et tout.
Il y a Huguette et Jackie, pardon. Huguette, on en dit.
Et Gaston, oh. Non, le choix des prénoms, mais c'est
si on dirait pas. Moi ça m'a fait rire. Hein. Huguette et Jackie, ça m'a. J'ai peut-être l'esprit un peu mal tourné et complètement à côté de la plaque, mais moi le coup d'Huguette et Jackie, ça m'a beaucoup fait rire.
Bon voilà, enfin, moi je crois pas que l'humour était volontaire dans le film, mais après
des toutes petites touches.
C'est de l'humour très noir, mais ça reste de l'humour quand elle vient. Enfin non, je vais pas dire du coup ce que ça spoil, mais ouais, enfin c'est trop gros. Du coup, je pense que c'est un peu pensé pour. Il y a le côté hyper tragique, mais qui est tellement tragique que ça fait rire parce que c'est de l'humour très noir.
Faites-vous votre avis. Merci à vous. Donc, bah, merci Neil. On se fait un ciné, le blog, hein, tout ça, tout ça. Regardez les posts de Thierry. Voilà, comme ça, vous verrez pour les liens.
Vous pouvez suivre le compte Twitter de On se fait un ciné aussi, et ça marche.
Et Judith, merci. Demoiselle d'horreur, toujours sur YouTube.
Et tout à fait. Encore merci de cette invitation. Donc voilà, Demoiselle d'horreur sur YouTube et sur les réseaux.
Merci, c'est toujours un plaisir. Bon, quant à vous, il faut retourner à l'enclos, Thierry Léonard. Donc on y va.
C'est, oui, d'accord. Si tu veux. Fais gaffe, on va te bouffer. Hein.
Dear God, your presence graces the air, and soon everyone will see.
Hi, Umord.
Yes, hi. It takes nothing special to mop up after the dying.
You're prettier than the last one.
But to save a soul, that's quite something. Bless Amanda's body and bless her mind, which is shrouded in darkness.
When you pray, do you get a response?
No. Oh, it's like he's physically in me.
J'essaye de trouver la vanne.
Allez.
Ah bon? Non.
Prenez la Bible sous votre banc.
C'est ça,
je connais. Oh. C'est ça, savoir ce que Darren Aronofsky a pensé du film.
On lui posera la question. Waouh, on enregistre vachement à l'avance. On est en septembre pour un film qui va sortir en novembre.
Tu veux la petite blague? Tu veux aussi savoir que moi j'ai l'écrit par Ellie sur la matrice dont on se fait un ciné depuis février quand il y a eu la première pour Jeux Presse?
Ah bah écoute, oui. Voilà. Alors, oui, film qui sort en novembre, 25 novembre, si tout va bien.
Comme toujours, hein.
Voilà, donc peut-être qu'en fait, on le publiera en 2021, ou même en 2023, qui sait, je ne sais pas. On verra bien. Synth Mode. Hein. Et ça, c'est en anglais, ils auraient pu mettre un E pour la version française quand même. Hein.
On est d'accord, on est d'accord.
Hein, ça coûtait pas plus cher.
Ouais, complètement. C'est, franchement, c'est de la paresse. C'est de la paresse. Robert va pas être content.
Premier film de Rose Glass, grand prix à Gérardmer, avec en plus le prix de la critique, le prix du jury jeune et le prix de la musique originale. Donc un gros carton plein à Gérardmer. Avec moi, une équipe d'amateurs du thriller horrifique. Avec moi, bon, Thierry, comme d'habitude, ça change pas.
Oui, grand amateur de thriller horrifique, mais un peu tout le temps là par défaut, quoi qu'il arrive.
C'est ça, c'est notre grand méchant de slasher à nous, Thierry. Et Léonore, bien sûr, toujours.
Ça y est, je reviens après l'étrange.
Alors, du coup, ça va passer en novembre. Donc, en fait, tu vas revenir après plein de trucs et tu seras bien. C'est ça, c'est les joies de l'enregistrement.
Alors, je ne sais pas si vous saviez, la semaine dernière, c'était l'étrange festival.
Mais peut-être que s'il y a encore le Covid et que le film est reporté, peut-être.
Exactement, ouais, le gros fail, désolé.
Et nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons aussi une invitée. Nous avons Judith de la chaîne Demoiselle d'horreur.
Salut, heureuse d'être parmi vous pour la première fois.
Pas trop intimidé par ces dangereux podcasteurs hirsutes.
Heureusement, je connais Éléonore, que je n'ai jamais trouvé hirsute jusque-là.
Tu la connais pas alors.
Ok, ça devient bizarre. Les deux autres, du coup, je ne sais pas.
Ces illuminés du podcast. Illuminés, c'est bien le mot, puisque nous allons parler de Sainte-Maude, on l'a dit. Sainte-Maude, l'histoire de Maude, comme le nom du film l'indique, dis donc, c'est beau. Infirmière qui va venir soigner Amanda, une ancienne danseuse gravement malade, qui va bientôt mourir, mais à la vie un peu décousue, un peu faux-folle, qui aime bien boire, fumer, recevoir des gens chez elle, des amants, des amantes, des maîtresses et autres. Elle aime bien s'amuser. Et Maude, elle, c'est une infirmière, elle veut soigner sa patiente, même soigner son âme. Et donc, elle va faire tout pour soigner l'âme de sa patiente, mais peut-être aussi la sienne. Sainte Éléonore, priez pour nous. Ton impression à la sortie de Sainte-Maude?
Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un premier film d'une jeune réalisatrice. Et pour une première réalisation, c'est déjà très maîtrisé. C'est un film qui aborde de très nombreux sujets, avec des personnages qui sont très bien campés. C'est des personnages qui sont très réalistes. Et alors, normalement, je n'aime pas du tout le procédé de la voix off, mais là, il est intelligemment utilisé. Parce qu'on est du début à la fin dans la tête de ce personnage de Maude qui est très seul. Réellement très seule, elle n'a pas d'amis, on ne lui connaît pas de famille et on comprend qu'elle a vécu un trauma très grave quelques années plus tôt. Et cette voix amplifie, cette voix off qu'on entend tout du long, amplifie cette solitude. Et du coup, c'est un film qui est tout dans... Enfin, il est très lent, il est toujours dans cette espèce d'atmosphère pesante, très bien retranscrite. Donc notamment, alors par les décors, ça se passe à Coney Island. Pour ceux qui connaissent la côte anglaise sur la Manche, c'est gris, c'est lourd. Mais moi, alors c'est une ambiance que j'aime bien, mais c'est une ambiance qui est comme ça très très présente et qui est contrebalancée du coup, parce qu'à Coney Island, pour ceux qui connaissent, il y a une espèce de petite fête foraine par des lumières néon très très travaillées et qui est en plus contrebalancée par la maison où Maude va travailler, donc chez cette ancienne danseuse qui est très connue, qui a bien gagné sa vie et qui donc vit une demeure, je dirais, de 1930, très bien décorée, très luxueuse, avec beaucoup de goût et qui contraste du coup avec le côté un peu plus popularisant de la côte de Coney Island. Et tout le travail fait sur les costumes et les décors sont absolument splendides. Je vais peut-être laisser du coup un petit peu tout le monde donner sa vie et je reviendrai peut-être.
On s'est décalé un peu pour éviter les gouttes de pluie, voilà. Mais on reprend. Et Thierry reprend. D'ailleurs.
Ah d'accord, c'est moi qui... Oui, en effet, oui. Moi, je rejoins surtout Léonore sur le décor. C'est quand même très mortifère. De toute façon, quand tu fais quelque chose à Coney Island ou sur la côte de la Manche anglaise, tu fais pas une comédie, quoi. Ou c'est compliqué, en tout cas. Ou alors, tu mets beaucoup de couleurs et tu demandes à ton étalonneur de bosser, quoi. Mais ça nécessite beaucoup de travail annexe. C'est surtout un travail d'ambiance que j'ai trouvé assez fou sur Sainte-Maude, surtout pour un premier film. Sur Sainte-Maude, pardon, sous un premier film, ce qui du coup assez prononcé, ça m'a fait un peu penser à du Jennifer Kent des débuts, à Mr. Babadook, ce genre de choses, où justement t'as une espèce d'ambiance qui est très travaillée dans son décor, dans la manière de gérer les cadres, et dans justement le fait de te montrer que de toute façon il y a quelque chose de mortifère qui va arriver et qui peut être, qui est caché derrière et que ça va te tomber dans la gueule quoi qu'il arrive. J'avais parlé, quand on avait vu Voir le jour, on en avait parlé vite fait, et il y a toujours cette... Enfin, de toute façon, c'est un thème que je trouve assez récurrent avec les infirmières, c'est qu'il y a beaucoup d'abnégation et de sacrificiel en fait de leur part généralement, et le fait d'aider pour soigner son trauma est quelque chose d'assez prononcé. Bon là, tu rajoutes en plus le côté calvaire religieux en plus, mais c'est vrai que voilà, moi dès le début, j'étais pas du tout à l'aise face à ce personnage. Je me suis dit voilà, ça va cacher énormément de choses et on va pas suivre une infirmière qui essaie de soigner sa patiente avec potentiellement des choses malsaines qui vont se passer dans cette maison. Mais tout va se passer en intérieur et le trauma. Et bon, Éléonore parlait de la voix off, c'est plus aussi sous forme de prière. Donc en soi, je considère pas tant ça comme une voix off qu'une narration qu'elle se fait à elle-même en fait. Elle est pas en train de tant raconter l'action, mais de faire une action intérieure qui fait partie des dialogues en réalité.
Enfin, ça reste un procédé de voix off. Après, t'en fais ce que tu veux. Mais oui, du coup, c'est pour ça que ça m'a pas dérangé. Ah. Parce que du coup, elle n'était pas en train de parler au spectateur, mais elle se parle à elle-même, quoi. C'est ça.
Elle se rend à l'école boule.
Non, tu arrêtes avec le sel des larmes, Thomas, ça suffit, quoi.
Judith.
Alors, moi, j'ai trouvé ça très beau. Alors, comme mes camarades, je suis très sensible à l'ambiance grise de l'Angleterre, que je trouve très propice aux histoires mélancoliques. Moi, j'adore en fait les films qui, surtout à travers le prisme de l'horreur, qui mettent en parallèle la réalité, on va dire, concrète de la vie et la manière dont une personne vit justement cette vie. Et je trouve ça excellemment bien mis en scène dans ce film-là. C'est un thème que j'adore. En plus, voilà, moi, je trouve que le personnage est extrêmement intéressant. Alors, juste, je trouve que ça a le défaut peut-être d'un premier film, à savoir que c'est pas très foisonnant autour de son concept. Mais en tout cas, son concept, lui, il est très bien maîtrisé, je trouve.
Oui, effectivement, on suit donc cette jeune femme et on ne sait pas trop au début où elle en est dans cette situation. On la découvre petit à petit, disons qu'elle n'est pas balancée comme ça d'un coup. Donc c'est assez agréable, c'est assez progressif. Et même, on sent qu'il se passe des trucs dans sa tête, mais on ne sait pas au départ si c'est du fantastique ou si c'est vraiment dans sa tête. Il faut avancer dans le film au fur et à mesure que l'ambiance s'installe. Et je vous rejoins en fait. Et je pense qu'en fait on est tous très d'accord sur ce film. Il n'y a pas de point d'accroche particulier. Comment est-ce que vous avez trouvé la prestation de Morfydd Clark qui joue Maud?
Alors moi j'ai trouvé ça, enfin je l'ai trouvé très bien dans le sens où on sort vraiment des sentiers battus, on va dire des interprétations très calibrées qu'on croise partout, bah, beaucoup dans le cinéma américain. Alors là forcément on est plus sur du britannique, donc ça a l'avantage du cinéma britannique d'avoir des acteurs plus authentiques avec des aides qu'on voit pas tous les 4 matins dans les magazines et des mimiques qu'on connaît pas par cœur. Donc ça a un côté authentique et frais, on va dire, qui est toujours bienvenu.
Je suis assez d'accord, ouais, mais du coup je l'ai, enfin pas grand chose à dire sur
quelque chose.
Au niveau les deux actrices, on en voit surtout deux, elles sont vraiment bien, mais il y a quelque chose de très rentré, de très fermé, mais en même temps de très lumineux. J'ai bien aimé, du coup ça m'a un petit peu fait penser par moments à Whatever Happened Baby Jane. Il y avait des moments beaucoup plus subtils, beaucoup plus narratifs on va dire, et d'autres moments qui étaient complètement fous et qui rappelaient un petit peu ce film et le fait d'avoir deux femmes interdépendantes dans une maison enfermée, et pour un film qui est limite horrifique.
Et oui, elle est très sincère, comme tu dis, très authentique. Et surtout, enfin, là, bon, on va vous donner les coulisses un peu du podcast. En fait, on enregistre très très tôt en avance, puisqu'on l'a vu en projet presse. Du coup, en fait, juste avant, on a vu Éléonore sur Népressive. Et donc, on a deux femmes qui, ben, justement, il se passe des trucs dans leur tête, visiblement. Et là, je trouve qu'il y avait. Oui. Non.
Mais lui n'est pas d'accord, visiblement.
Putain, non.
Tonton.
Voilà, donc on vient d'éviter la perceuse. C'est oui, c'est. Je me sens seul. Je me sens très seul. Bah, il y a un anti-vent déjà dans le micro, donc ça va. Mais ouais, je le subis. Donc je disais oui, on était très proche de du personnage. Je sais plus. Oui, voilà. Au moment où j'étais perturbé par la perceuse, je disais qu'on avait vu Éléonore juste avant. Bon, là, c'était une névrosée. Là, on va plutôt sur la tendance, l'autre tendance psychotique. Mais est-ce que je spoile pas en disant ça ? Parce qu'on s'en doute un peu quand même.
Pas forcément. Non, mais de toute façon, oui, on te donne des indices assez vite sur le fait qu'elle va mal, au-delà de l'ambiance et de tout ça, même si il y a un côté stigmatique, même j'ai envie de dire, c'est le rapport à la chrétienté est là aussi. Hein.
Mais justement, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que j'avais peur au moment du rapport avec la chrétienté, parce qu'elle est très très croyante, et je me suis dit, allez, on va mettre ça sur le dos de la religion, c'est super facile, hein, et en avant. Et en fait, non, on sent justement, comme le personnage est bien écrit et qu'il est bien filmé, qu'on a une attention sur le personnage et qu'il n'est pas, jugé, il est juste montré tel qu'il est. On le voit, on est en empathie avec elle, enfin, on est en empathie, on est dans sa tête, donc on voit ce qui se passe. Et justement, on voit son malaise, on voit qu'en fait, la religion, c'est plus son refuge qu'autre chose. Elle est seule dans sa religion, elle ne va pas voir un prêtre, elle ne va pas voir ou des bonnes sœurs, un couvent. Enfin, elle est dans son truc, elle est dans sa tête et elle se sert de ça comme échappatoire à ce qu'elle a vécu, comme valeur refuge. Et justement, j'avais peur d'une charge un peu facile, et non. Et on voit plus
on est plus sur le malaise de cette fille, ce qu'elle a vécu, plutôt que ça. Et c'est donc c'est assez subtil, c'est équilibré, et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé aussi également, en plus de l'attention aux images, parce que évidemment il y a des symboliques un peu partout. Il y a un livre d'images saintes qui est assez facile pour mettre des symboliques.
C'est un peintre, un livre sur un peintre.
Oui, mais ce sont des images religieuses qui sont sur le...
Justement, j'allais y revenir, j'attends ton propos, mais je reviens sur la spiritualité.
Donc, il y a des symboliques sur quasiment tous les plans, donc il y a beaucoup d'attention à l'image et au cadre.
Oui, du coup, je vais revenir un petit peu sur la spiritualité et déjà sur comment exactement se sert de la religion pour gérer son malaise. Et on comprend dans le film qu'avant de se retourner vers la religion, elle avait essayé l'alcool et les mecs, quoi. Enfin, c'est un peu dit. Donc, comme quoi, c'est très clairement pas une vraie religieuse, mais c'est plus juste un moyen de d'expier
ces démons.
Ces démons, exactement. Ouais. Et pour revenir sur la spiritualité, il y a des passages très intéressants, notamment avec le personnage de la danseuse, de la malade, qui est, elle, très spirituelle. Finalement, déjà, elle a choisi une carrière de danseuse et de chorégraphe, et c'est quelque chose qui touche presque au spirituel, parce qu'elle, en essayant de faire de l'art, on essaye de faire quelque chose de beau et quelque chose qui est plus que simplement le commun, donc quelque chose de spirituel. Et à un moment, donc, elle offre ce livre de peinture de William Blake. Donc, je connais mal ce peintre, je ne sais pas si l'un de vous connaît mieux, non, mais qui touche beaucoup à la religion et au spirituel. Et à un moment, elle lit un passage du livre où il est dit que le peintre recherche la vraie spiritualité et non pas celle qui est... Enfin, la religion qui est trop ordonnée et qui n'est pas réellement spirituelle. Donc, c'est carrément un moyen de faire écho aux actions de Maud qui sont très ordonnées, mais qui finalement... ne sont pas là pour rechercher le beau et le vraiment ce qui est au-dessus d'elle quelque part. Je sais pas si je me fais comprendre.
Pour moi, c'est effectivement intéressant la manière dont au départ Maud pense vivre la religion dans la 16 et donc dans cette logique d'expiation, etc. Et finalement, elle se dit que la religion, elle peut être vécue d'une manière plus passionnelle pour le coup. Et en fait, je pense que c'est vraiment une femme qui ressent la vie de manière extrêmement forte et qu'elle cherche à la canaliser. Donc elle a dû essayer effectivement à une époque plein de sortes de dérives qui n'arrivaient pas à satisfaire cette manière exacerbée dont elle éprouvait la vie. Et quand elle a trouvé la religion et qu'elle a senti dans la religion la possibilité de justement de la vivre de manière plus spirituelle, elle s'engouffre là-dedans. Sauf que voilà, le problème c'est que c'est une femme pas très stable qui du coup ça va jouer des tours. Mais je trouve que c'est beau cette manière dont le personnage cherche absolument à éprouver toute la vie qu'elle ressent, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais...
Mais c'est surtout qu'elle a besoin de se créer un cadre qui est très concret, très absolu et auquel elle peut croire définitivement, faut que j'articule. C'est pour ça qu'elle se plonge vraiment corps et âme dedans, parce qu'au final, et c'est ce qui est utilisé dans la mise en scène, et c'est ça qui est hyper intéressant vu qu'on est constamment dans sa tête, c'est que la manière dont sont gérés les ressorts horrifiques du film, qui sont pas forcément trop nombreux, c'est que c'est par flash. On n'a pas des jumpscares qui vont débarquer avec une musique ou quoi que ce soit. On a tout à coup des images qui vont irrupter à l'écran, qui vont être assez sales, qui vont être très graphiques et qui vont être justement en fait, et c'est là qu'on comprend que c'est ce qu'elle essaye d'éviter à tout prix en justement concentrant son esprit dans l'absolu total et dans l'extrême total de ce qu'elle essaye d'atteindre en fait, en se disant plus je pense à fond la caisse de cette façon-là, moins ces choses peuvent survenir dans ma tête parce que de toute façon mon esprit est ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'elle essaye de faire un abandon total en fait là-dedans, en se disant que c'est la solution, ce qui est plus malheureusement pas forcément le cas.
Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Nous verrons à la fin du film. Ne racontons pas tout, s'il vous plaît. Il est bien, on va pas le spoiler celui-là.
Non,
je dis.
Oui, non, je trouve ça juste intéressant justement que le personnage de la malade soit une danseuse, parce qu'en fait, ce que disait Thierry, enfin ce qu'on disait tous là, en fait, ça me fait penser que le film a de gros parallèles à faire avec Black Swan, en fait. Et du coup, ouais, je trouve ça marrant que le personnage soit une danseuse, enfin le personnage de la malade. C'est tout.
Black Swan, la danse, Dieu, Aronofsky, toujours les mêmes.
En plus, une danseuse en fauteuil roulant, c'est un ange déchu un peu. C'est vraiment... C'est...
Mais complètement, mais tout à fait, non, c'est tout.
Voilà, il y a des images partout, je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures. Là, c'est juste les impressions en 5 minutes en sortant de la salle, donc c'est vraiment...
Allez, changeons d'ambiance. Vous aviez pas l'impression qu'elle ressemblait un peu à Meryl Streep, la danseuse?
Si,
ouais.
Si.
Et le gars à qui elle parle au début, c'était un peu Steve Coogan. Ouais, je me suis fait un film alternatif dans ma tête, hein, je veux dire. Moi, tu vois,
c'est comme Kairon. La première était bien, il fallait s'arrêter là.
C'est ça.
Mais alors, l'actrice qui fait le personnage de la danseuse, alors je n'arrive pas à retenir son nom, Jennifer Illy, peut-être, je ne sais pas comment prononcer ce nom, c'était l'héroïne de la série de la BBC Orgueil et Préjugés, qui jouait Elizabeth Bennet. Et en fait, au début, j'arrêtais pas de me dire, mais c'est... alors c'est pas Meryl Streep, mais alors où est-ce que je l'ai vue? Et en fait, c'était là-dedans. Et j'étais très contente de la retrouver, en fait.
Oui, oui. Mais non, je disais juste, mais oui, c'est vrai. Parce que, ouais, voilà. En plus, j'ai écouté un podcast Lemon Adaptation Club sur Orgueil et Préjugés, genre il y a deux jours. Donc, du coup, je l'avais bien en tête. Attends, c'est vrai, tu as raison.
Ça fait une recours en plus, c'est génial.
Ouais, ouais, juste peut-être parler de l'élément horrifique. Alors, c'est très rare que j'ai peur dans les films et je trouve que la vraie scène un peu horrifique, elle est bien amenée. On la voit pas, enfin, si, on la voit un peu venir, mais quand même, j'ai eu un petit peu le sang-froid et c'était vraiment bien fait.
J'ai flippé, pourtant elle a, c'est pareil, je suis pas plus forcément très sensible au jumpscare ou ce genre de choses, elle a un côté très classique dans son exécution et pourtant elle est tellement bien amenée dans un film qui nous a tellement pas habitués à ça que sur le moment je me suis dit oh putain, ça faisait longtemps que j'avais pas flippé sincèrement comme ça devant ce genre de scène. J'ai trouvé ça top.
Bon, je suis content que ce soit des expertes du film d'horreur qui disent ça, parce que bon, moi du coup je savais plus trop, mais oui effectivement une belle ambiance que je partage également.
T'avais pas envie de dire que t'as eu peur ou...
Mais j'ai sursauté par moment. Alors c'est souvent à cause des scènes d'automutilation.
Je t'ai entendu. Oh, il a pas aimé.
Je suis pas très très fan de ça.
Non, oui, même les injections quoi que ce soit, pareil, c'est quelque chose qui me rassure pas naturellement. Voilà. Donc,
oui, non, âme sensible, s'abstenir bien sûr, mais bon, ça.
Mais d'ailleurs, c'est très intéressant comme il y a une progression dans le film sur la manière de parler d'incarnation à travers le corps. Justement, on commence par des gros plans sur les membres qui se plient de manière très naturelle pour les séances de yoga ou ce genre de choses. Puis on passe aux injections, puis on passe à des moments d'automutilation. Et en fait, voilà, il y a vraiment une manière d'étudier jusqu'à où on peut parler d'incarnation à travers le corps et la dérive jusqu'où va le personnage principal. En fait, je trouve ça très très bien amené de manière très délicate et subtile. À l'image de la photographie du film d'ailleurs.
Délicat, subtil, un coup de cœur de l'équipe de Clac et de notre invitée Judith de la chaîne YouTube Demoiselle d'Horreur. D'horreur. Il fallait que je la fasse.
Tu pouvais t'abstenir, mais bon, on est habitué.
Pour les mariages funèbres, ce genre de choses. Bien sûr, toujours.
Pas trop mal rattrapé.
Demoiselle d'horreur, donc, avec un compte Facebook, Instagram, Twitter, je sais pas.
Tout à fait, bah exactement, Facebook, Instagram, Twitter, je ne peux pas, dire mieux. Oui, il manque TikTok, ça manquera longtemps, je pense.
Les liens en description, tout ça. Et tu parles que de films d'horreur ?
Jusque-là, oui, c'est vraiment... chaque épisode, en fait, se concentre sur l'analyse d'un personnage féminin dans un film d'horreur en particulier, avec quelques petits hors-séries. J'espère bientôt développer un nouveau format, mais voilà, pour l'instant, on est très ciblé horreur et cinéma de genre.
Bon, si... C'est vraiment très très bien, allez-y.
Bon, comment on va passer cette pastille dans 2 mois, si jamais il y a du nouveau
Relique.
Allez voir le lien, tout simplement.
C'est marrant parce qu'on risque de diffuser un épisode où tu seras avec nous avant celui-là, alors qu'on te présente dans celui-là. Vous allez rien comprendre, c'est génial. On va inviter Christopher Nolan pour qu'il mette un peu ça en ordre.
Mais c'est lui qui réalise l'émission d'ailleurs.
Je me disais que je comprenais plus rien à la temporalité là.
What? Il rit.
Il se compare à Christopher Nolan là quand même.
T'as vu Tenet, hein, je veux dire, il peut. Hein.
La perceuse, c'est la musique du film qu'on a fait.
Exactement. Non, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé.
Bon, bref, merci Judith. Et on passe à la suite de l'émission, sûrement avec Thierry et Léonore. Et peut-être Judith d'ailleurs, on sait pas. On sait pas, j'en sais rien. Je suis perdu, il y a des temps partout, je sais pas. Bon bref, la suite. Putain, cet enregistrement entre les perceuses de la pluie et...
C'était chaotique.
En plus, ce matin, je regarde la météo, soleil. Ok, ça va.
Quand tu as des invités comme ça, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui savent pas.
Ouais, ça fait une bonne première impression. Super.
Les gens qui passent et qui nous fixent comme ça en mode...
Mais qu'est-ce qu'ils font ?
Est-ce que c'est des stars ?
Est-ce que je la connais ?
C'est ça. Mais moi, on va payer des gens comme dans Love Family Romance pour se faire prendre en photo dans la rue pour que les gens pensent qu'on est des stars. Je pense qu'on va faire ça. Je rappelle les dates de sortie si vous avez sauté l'intro, on ne sait jamais. Et que vous êtes passé directement au film et que vous dites tiens, les dates sont un peu bizarres. Effectivement, ça a été enregistré avant, donc je le rappelle, The Craft Legacy est déjà disponible en VOD, Garçon Chiffon et Falling reviennent à la réouverture des salles et sont de nouveau dispo en salle le 19 mai 2021.
Détective Conan The Scarlet Bullet arrive le 26 mai 2021 en salle sur grand écran. La nuée est prévue le 16 juin 2021 et Saint Maud devrait arriver en juin 2021 sur grand écran. On attend encore des précisions. J'ai dit en intro que c'était la dernière émission avant la réouverture des ciné, mais c'est aussi le dernier épisode tout court. Après 3 heures d'aventure, l'équipe de Clack se sépare pour cause de désaccord éditorial. C'est une aventure qui s'arrête, mais d'autres continuent et d'autres se lanceront très bientôt après. Suivez les réseaux sociaux de chacun, vous verrez. Merci à vous, les auditeurs, les assidus qui écoutaient chaque semaine dès la publication, ceux qui écoutaient de temps en temps, ceux qui commentaient sur les réseaux ou sur les applis comme Clégo ou Maël ou bien les silencieux. C'est pour vous tous qu'on fait cette émission. J'espère qu'on vous aura aidé dans vos choix de films, que vous avez découvert des films grâce à nous et que vous avez tout simplement passé un bon moment aussi à l'écoute de cette émission. Merci aux cinéastes au sens large, les réels, les acteurs, les scénaristes, les équipes techniques, la prod, etc., 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 le maquillage, décor, c'est vous qui insufflez la magie au film. Merci aux exploitants de salles, petits ou grands, grâce à qui on peut profiter des films dans les meilleures conditions, sur grand écran, voilà, avec la bonne sono qui va bien, soutenons-les, allons au cinéma dès la réouverture. Merci aussi aux organisateurs d'événements, comme les festivals bien sûr, le PIF, le FFCP, Deauville, Gérardmer, le Forum des Images et tant d'autres bien sûr. Aussi les organisateurs d'avant-première ou de séances spéciales, on pense à Sens Critique, Allociné, les chaînes de cinéma, les exploitants de salles aussi, JCM, K2, Pathé, CGR, les petits exploitants aussi qui font ça. Je pense notamment au Publicis, chez qui on a pas mal squatté. Grâce auquel on a pu vous faire découvrir des petits films, des pépites, à la distribution parfois compliquée chez nous. Je pense notamment au PIF ou au FFCP pour ça. Merci aux distributeurs qui nous ont permis d'accéder aux projections presse pour vous parler des sorties à l'avance. Merci au chat, notre hébergeur. Merci à la communauté Podcastéo pour son aide et ses conseils. Merci à nos proches pour leur soutien et qui ont été très compréhensifs quand on leur disait « je peux pas, j'ai podcast ». Merci à Jade Latour pour le logo. Merci à Kostia Yordanov pour le générique. Merci à nos invités, comme Judith et Neil dans cet épisode, mais aussi à tous les autres dans tous les épisodes. On peut pas tous les citer, mais on vous embrasse tous. Merci à nos invités guest VIP pour les festivals qui ont suivi dans des conditions un peu plus rudes avec nous, parfois sous la pluie ou parfois déportés, parfois très tard le soir. On pense bien sûr à Margot, Neil ou Vincent dont se fait un ciné, à Gabin de Cinématrack ou Hyperlink, à Quentin de La Rencontre du 7e Art, à Lily du blog de Lily, à Léa, à Cassili Karma de Fucking Cinéphile. On pense aussi à Wonder Laura de Fucking Cinéphile aussi, qui n'a pas fait de festoche avec nous mais qui est venu souvent dans l'émission. Merci aux membres ponctuels de Clack, Alex, Sophie, Claude, Valentin, Fouad. Merci aux membres un peu plus réguliers. Era Lascri pour sa sagesse, Karl Vincent pour ses coups de gueule, Yassa Arban pour son rire évidemment, Marwan Foudil pour sa sensibilité, Elie Bartin pour son élégance, Éléonore Tain et Jess Lordi pour leur sort, et bien sûr Thierry de Pincin qui a cofondé cette émission avec moi. Je suis Thomas Bondon, j'ai eu la joie et l'honneur de vous présenter et monter cette émission durant ces 3 années. J'ai la tristesse aujourd'hui de vous dire au revoir. Prenez soin de vous. Allez au cinéma. Bisous, bisous, bisous.